Au cours des 15 derniers jours, une vague massive de protestations antigouvernementales a secoué l'Iran, déclenchée par l'effondrement économique et la chute du rial à une valeur de 1,4 million pour un dollar, suite à des sanctions qui durent depuis des années et qui s'accroissent, et aussi et surtout au conflit de 12 jours qui a eu lieu en juin dernier et qui reste comme la guerre des 12 jours. Les manifestations ont commencé autour du nouvel an 2026, s'étendant rapidement à plus de 170 localités dans 25 provinces, avec des millions de personnes dans les rues réclamant la liberté et la fin du régime. Les forces de sécurité ont répondu par une répression violente, causant au moins 45 morts parmi les manifestants et des centaines d'arrestations selon les groupes de défense des droits humains. Le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, a qualifié les protestataires de vandales et de saboteurs, accusant les États-Unis d'instigation, ainsi qu'Israël, et promis une répression plus dure. Un blackout national Internet a été imposé, coupant les communications téléphoniques et isolant le pays pour étouffer les voix dissidentes. Le prince exilé, Reza Pahlavi, a appelé les Iraniens à manifester depuis les rues, fenêtres ou toits. Des grèves ont paralysé plusieurs secteurs, amplifiant la pression sur le régime, tandis que des feux et des barricades ont marqué les nuits de protestations intenses. Le président américain Donald Trump a réitéré son engagement à tenir le régime responsable, appelant d'autres leaders mondiaux à soutenir le peuple iranien. Des appels internationaux se multiplient pour restaurer les communications et éviter un bain-de-sang, alors que les observateurs estiment que le régime pourrait s'effondrer. Dans le contexte d'accélération de la confrontation entre le bloc eurasiatique et l'Empire américain, avec la chute de Maduro et la saisie des pétroliers russes cette semaine, et un budget militaire américain annoncé à 1500 milliards de dollars, soit plus 50% pour 2027, après un record à 900 milliards cette année, une nouvelle révolution iranienne serait une victoire stratégique pour l'Amérique et une bonne nouvelle pour la Perse éternelle. Bonsoir, je suis Philippe Fabry, nous sommes le 9 janvier 2026, il est 21h35. Bienvenue dans cette émission qui est consacrée donc à la question iranienne et la grande question, est-ce que le régime va s'effondrer? Bien sûr, on abordera aussi un certain nombre d'actualités géostratégiques, mais vous devez être un petit peu au courant puisque nous sommes la première semaine du mois, donc il y a eu cette semaine le bulletin géopolitique en accès gratuit. Par conséquent, vous avez pu aller le consulter, vous pourrez aller le consulter pour voir ce qui se fait ailleurs dans le monde. Mais ça va être l'occasion, comme l'actualité va très vite, de parler également des suites des principaux axes de transformation, parce que assez clairement, on est dans une année qui a démarré sur les chapeaux de roue et jusqu'ici, ça ne ralentit pas. Ça ne ralentit pas, il se passe des choses tous les jours. Et on va essayer, comme d'habitude, de mettre un petit peu de profondeur là-dedans. Alors avant de démarrer, juste je rappelle que ceci est le live hebdomadaire, donc il sera suivi du live privé des abonnés dans lequel je répondrai aux questions. Je répondrai aux questions avec dons qui seront posés pendant l'émission, j'y répondrai dans l'émission publique avant de basculer sur le live privé. Et je présente simplement mes excuses pour avoir été un petit peu rapide la semaine dernière quand je vous ai dit que j'allais mettre en ligne le premier format des super lives privés. Ça va être fait, mais simplement on est un petit peu en retard, donc ça devrait être fait dans la semaine qui vient, voilà. Mais il y a beaucoup de choses à suivre, donc j'ai pas encore eu le temps de le mettre en ligne, parce que je voudrais rajouter un petit mot au début pour présenter le nouveau format. Voilà, mais je reparlerai de ça, tout ça plus tard. Donc ce soir, alors, je vais tenter de faire des manips, des choses que je fais pas d'habitude, pour rediffuser, on va essayer de faire un petit peu de quelque chose que je fais jamais. On va faire une petite rétrospective Historionomique, parce que vous savez que l'Iran, finalement, alors c'est un bon cas pour ça, pour faire le suivi de la chaîne, parce que le principe de cette chaîne, c'est aussi en soi une expérience scientifique, vous le savez, puisqu'il s'agit de vérifier un petit peu au long cours les prévisions qu'on peut faire sur la base de mes modèles historionomiques, et donc c'est bien de revenir dessus de temps en temps et d'assurer un petit peu le suivi, le service après-vente d'une certaine manière. Et alors, il y a des sujets sur lesquels c'est plus facile que d'autres à faire, hein, puisque c'est compliqué, par exemple, si je veux le faire sur la Russie ou sur la France, où je peux le faire que ponctuellement, parce que j'ai fait tellement d'émissions dessus que c'est très difficile d'aller chercher. Alors que pour l'Iran, finalement, j'ai dû faire au total une dizaine d'émissions sur 4 ans sur l'Iran, bon, à vue de pif, hein. Il y a peut-être un peu plus d'émissions où je parlais de l'Iran, mais des émissions consacrées à l'Iran véritablement, j'ai dû en faire ouais, qu'une dizaine. Et donc, ça a été assez facile pour moi d'aller chercher, et notamment d'essayer de refaire un petit peu l'historique de ce que j'ai dit sur l'Iran. Parce que le fait est que ce soir, moi, la thèse que je défends très honnêtement devant vous, parce que désormais, j'y crois, mais à la limite, j'y croyais déjà il y a 6 mois, donc on va le revoir dans un instant. C'est que maintenant, on est à la fin de cet ancien régime et qui va basculer dans la révolution. Je pense qu'on est entré dans cette séquence-là. Mais il y a eu d'autres séquences d'agitation dans les années précédentes, il y a eu d'autres événements. Et donc, je voudrais prendre, je pense qu'il doit y avoir maximum pour une dizaine de minutes, mais faire des petites rediffusions de choses que j'ai dit les années précédentes. Et pour ceci, alors je vais ouvrir une petite fenêtre et je vais essayer. Je pense qu'en mettant l'audio du bureau, ça sera bon. Si jamais vous n'entendez pas le son, soyez sur le coup. Dites-le moi tout de suite, histoire que je me débrouille pour vous le remettre. Mais a priori, ça devrait être bon. Alors là, donc je vais réafficher ça déjà. Voilà. La première émission que je voudrais vous remontrer, ce qui est celle-ci, je vais me décaler par là pour en parler. C'était. Donc je l'ai fait dans l'ordre chronologique. Hein. Cette émission-là, elle était. Attendez que je rouvre ça. C'était, voilà, 30 septembre 2022. Donc on était dans les premières semaines des manifestations, vous savez, qu'il y avait eu à la suite de l'exécution de cette jeune femme dont le nom m'échappe malheureusement, mais qui avait lancé les manifestations essentiellement étudiantes autour de la question des mœurs et du voile un petit peu. Et donc on va essayer de se réécouter ça. Alors j'espère qu'il n'y aura pas de bruit parasite. Je vais gérer parce que je suis obligé de passer par l'audio du bureau, je crois, pour que vous l'ayez. Je vais vous mettre ça comme ça. Voilà. J'espère que ça ne va pas gueuler. Je vais surveiller. Et on se réécoute ce que j'avais dit à ce moment-là.
L'Iran aura un rôle à venir dans la confrontation qui arrive. Il joue déjà un peu puisqu'il fournit des drones à la Russie, mais enfin, il jouera encore un rôle plus direct, à mon avis, avec l'extension du conflit. Et je pense que c'est que dans le cadre de ce conflit que notre.
Je m'en pose une seconde, je vais vous le mettre en 1,5 parce que sinon je parle vraiment trop lentement. Ça va être insupportable.
Donc les forces du régime seront battues à Amenry et que c'est en sortant de ce conflit que l'Iran pourra enfin faire sa transition démocratique pour laquelle je pense qu'il est tout à fait prêt au plan de ses structures sociales internes, il n'y a pas de problème. Et ce sera d'ailleurs très intéressant parce que ça donnera probablement aussi un coup à l'islamisme mondial dont l'émergence de l'Iran finalement a été un symbole et un phénomène très important au début des années 80. Voilà, donc c'est ça que je voulais dire aujourd'hui, c'est ça la vision que j'ai des manifestations en cours. Je pense qu'on verra assez vite si j'ai raison ou pas. Il faut savoir que en Égypte, les manifestations, elles ont fait tomber Moubarak. J'ai vérifié les dates en à peu près 15 jours, puisqu'elles ont commencé 25 janvier 2011 et Moubarak est parti le 11 février. En Tunisie, donc c'était un mois avant, elles avaient commencé le 17 décembre, les manifs, et Ben Ali était parti le 14 janvier. C'est d'ailleurs le départ de Ben Ali qui a d'une certaine manière fait naître les troubles en Égypte, puisque ça a eu un effet domino. Puisque quand vous êtes dans un pays, vous avez envie de vous révolter, que dans le pays voisin, les gens se révoltent et que ça marche, forcément, ça motive beaucoup de gens, et donc ça a lancé un petit peu le phénomène. Donc là, on est déjà à 15 jours de manifestation, et il faut dire que l'essentiel de ce qu'on voit, c'est surtout de la répression. Alors la mobilisation continue, mais on ne voit pas d'affaiblissement du pouvoir, on ne voit pas de flottement. En plus, le pouvoir a un contrôle de l'information, ils ont coupé Internet, ce qui n'avait pas été fait, me semble-t-il, en Égypte. Je crois que même que le pouvoir égyptien n'avait pas les moyens de le faire. Et donc je pense que si d'ici 15 jours, vous n'avez pas vu le régime vaciller, ce que je crois qu'il arrivera, eh bien c'est qu'il ne vacillera pas, et que donc il faudra plus que ça pour le faire tomber, ce qui m'apparaît aujourd'hui le plus probable. Voilà ce que je voulais vous dire là-dessus. Je détaillerai, si vous voulez, dans vos questions.
Voilà, donc ça c'était le premier extrait dans lequel je disais que ces manifestations, je ne les voyais pas en fait déboucher. Enfin, vous venez d'écouter sur les fondements du régime. On en était encore là, alors c'est amusant parce qu'on voit l'évolution de ma pilosité et de l'éclairage au fur et à mesure des émissions. C'était encore le cas en décembre 2022, donc ça c'était 2 mois plus tard.
Donc je privilégierais moi plutôt le fait que l'Iran, le régime arrive à se maintenir par la répression et que, à un horizon relativement proche, par contre, il soit entraîné dans des opérations militaires à l'extérieur qui seront peut-être pas forcément de très grande ampleur, mais un conflit, je ne sais pas de quel ordre, qui pourrait justement être autour du Kurdistan, par exemple avec les Turcs, s'il y a un problème relationnel à ce niveau-là. Puisqu'il y a, je l'avais déjà mentionné, il y a des tensions entre l'Iran et l'Azerbaïdjan, puisque l'Azerbaïdjan est proche d'Israël qui lui livre du matériel militaire, donc il y a des tensions entre les Iraniens et les Azerbaïdjanais, et Azerbaïdjanais qui sont des quasi-Turcs, hein, comme je vous l'ai déjà expliqué, hein, puisqu'ils estiment qu'ils sont une seule nation dans deux États avec les Turcs. Donc il n'est pas impossible que l'Iran soit pris dans une guerre régionale comme ça. Ça pourrait être le cas autour de l'Arménie, par exemple, s'il y avait de nouvelles. Si pour éviter une jonction de l'Azerbaïdjan et de la Turquie, l'Iran décidait de soutenir l'Arménie, ça pourrait amener un conflit ouvert. Vous voyez, dans la région, il y a tout un tas de possibilités. Il y a des possibilités vis-à-vis de l'Arabie Saoudite aussi. Donc c'est difficile de savoir d'où ça pourrait partir. Mais l'idée, c'est qu'il peut y avoir. Il y a plusieurs hypothèses très plausibles dans lesquelles l'armée iranienne, et notamment les gardiens de la révolution, pourraient être entraînés à s'impliquer militairement. Et où ils pourraient justement être enlisés dans une guerre qui leur coûte très cher et qui les affaiblirait suffisamment matériellement, hein, c'est-à-dire en hommes et en matériel, pour qu'à l'intérieur, ils ne soient plus en mesure, ils n'aient plus la force d'assurer la répression qui leur aura permis de se maintenir au pouvoir, et à ce moment-là, le régime tombera. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses, et dans un avenir qui, à mon avis, est relativement proche, puisqu'on arrive, on arrive temporellement au moment où ce genre d'événement se déclenche. Donc je pense que ceci va arriver dans les mois ou les 2 ans qui viennent, en tout cas, et donc ça se surajoutera à tout un tas d'autres conflits régionaux ou globaux dans cette confrontation mondiale, puisqu'il est évident que l'Iran, c'est le partenaire sud de la Russie, un des plus solides, puisqu'il lui fournit de l'armement de manière tout à fait publique pendant en pleine invasion ukrainienne. Et en même temps, il va y avoir vraisemblablement cette opération turque qui devrait intervenir maintenant, ça doit faire dans une douzaine de jours, puisqu'il me semble que c'est il y a 2-3 jours que l'ultimatum a été mentionné par Erdogan.
Bon, je ne sais plus de quoi il était question comme intervention turque à ce moment-là. Si c'était au Kurdistan. Je crois qu'elle n'avait pas eu lieu finalement, qu'Erdogan ne l'avait pas fait. Mais en tout cas, vous voyez, j'étais toujours sur cette position-là, qu'à ce moment-là, le régime ne tomberait pas, et qu'il faudrait une guerre. Parce qu'il fallait, même si on était sur une fin d'ancien régime en Iran, il fallait qu'il y ait un déclenchement d'une guerre. Alors, ce qui est amusant, c'est que je ne mentionne pas Israël, ce qui aurait été l'idée la plus évidente pour le déclenchement d'une guerre. Autour de l'Iran. Mais si vous vous en souvenez, d'ailleurs vous allez vous en souvenir parce que je vais vous remettre un extrait où justement je le disais, lorsqu'il y a eu les événements du 7 octobre, j'ai d'abord cru, j'ai mis 3 semaines à comprendre l'ampleur que ça allait avoir et à quel point ça risquait de déclencher effectivement une guerre régionale. À la base, tout simplement, assez bêtement, j'étais parti de l'idée que, ce qui m'avait intéressé le plus, c'était de savoir est-ce que c'était l'Iran qui avait provoqué ça ou pas. Parce que comme j'avais l'idée, comme je vous l'ai dit, qu'à un moment l'Iran essayait d'intervenir dans la guerre et que le but stratégique régional de l'Iran, c'était plutôt d'expulser au maximum l'influence américaine de la région. Ce que je m'étais dit, c'est que donc il y allait un moment où la guerre allait venir de l'Iran d'une certaine manière, et j'avais pas calculé que ça pouvait venir d'un proxy de l'Iran, mais qui entraînerait l'Iran malgré lui, parce qu'en fait c'est ça qui s'est passé. Il faut se souvenir, c'est que le Hamas est intervenu. Alors dès le début, pour le coup, c'était vrai. J'avais dit, à mon avis, c'est pas l'Iran qui a provoqué le Hamas, c'est le Hamas qui a essayé de bouger tout seul, notamment parce que le Hezbollah a pas embrayé tout de suite, etc. Mais du coup, j'ai pas pensé à réfléchir qu'il n'y avait pas que l'Iran, et qu'il suffisait qu'Israël estime que l'Iran était derrière pour que ça amène à une confrontation avec l'Iran. Et c'est effectivement ce qui a fini par se passer. Mais avant ça, donc, petit extrait suivant, qui dit, alors c'est l'évolution de ma pilosité est toujours plus amusante. Je crois que c'était mon maximum de barbe, là, très honnêtement. Je vais vous mettre cet extrait-ci. Donc là, on est en... Je vais vous le remettre en x1.5 aussi. Il y a des gens qui se plaignent que c'est un peu trop rapide. Très honnêtement, x1, c'est trop long. Par contre, je vais voir si le son est bon, parce qu'il y a des gens qui se sont plaints sur la deuxième vidéo que je n'avais pas vue. Et ça, c'était le 28 octobre 2023. Donc, c'était 3 semaines après le début.
Et d'ailleurs, on le voit depuis le début de la crise, il n'y a pas d'élan du pays arabe pour aller attaquer Israël. Donc là-dessus, je reste sur mon analyse, qui est mon analyse du départ, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de soulèvement massif du monde arabe contre Israël. Ça n'arrivera pas. L'autre analyse que j'ai, je vous l'ai déjà dit en entreprise, je pense que l'Iran n'était pas derrière, alors je ne vous refais pas le détail, l'Iran n'était pas derrière l'attaque du Hamas. C'est pas, l'Iran soutenait le Hamas, hein, naturellement, donc il y avait un risque, si vous voulez, mais il n'y a pas d'intention, hein, c'est l'équivalent de l'homicide involontaire, on va dire. Vous voulez l'acte, mais vous voulez pas les conséquences. Donc, vous voulez l'acte d'aider le Hamas, mais vous n'aviez pas prévu que ça donnerait ça exactement. Mais c'est arrivé. Et donc l'Iran doit voir ce qu'il doit faire avec. Et donc il y a une grande question. En fait, la question, c'est que il est possible qu'il y ait une guerre régionale, il est possible qu'il y ait une guerre régionale d'ampleur. La question, c'est dans quelle mesure. Et j'ai fait un petit parallèle qui ne me convient pas complètement, mais qui a quand même son intérêt pour un certain nombre de dynamiques, qui est justement avec la veille de la guerre de 14. C'est que la guerre de 14, les Autrichiens avaient un problème, ils avaient un problème avec les Serbes, qui étaient encore extérieurs à l'Empire autrichien, mais qui causaient donc des problèmes à l'Empire d'Autriche, parce qu'ils étaient hostiles, c'était un allié d'un ennemi stratégique de l'Autriche, qui était la Russie, hein, de la même manière que les Palestiniens de Gaza sont alliés via le Hamas à l'Iran, et donc Israël a un problème avec Gaza, de la même manière que l'Autriche a un problème avec la Serbie. Vous avez l'assassinat de Sarajevo, hein, j'ai fait un parallèle la semaine dernière, j'avais dit qu'il y avait peut-être un truc, alors du coup je l'ai filé, j'ai réfléchi là-dessus cette semaine. L'attentat de Sarajevo, l'Autriche elle cherche à gérer ça d'abord comme une crise locale, en disant on va voir ça avec les Serbes, et donc l'Autriche cherche à intervenir, à faire intervenir sa police sur le territoire serbe. Les Serbes disent non, parce que ça reviendrait à faire de la Serbie une province de l'Empire d'Autriche, et c'est hors de question, justement on se bat pour notre indépendance, etc. Et donc à partir de là, l'Autriche dit, puisque vous voulez pas, on vous considère globalement collectivement responsable de l'attentat, et donc on vous déclare la guerre, on va venir chez vous, on va faire l'enquête. Et là vous avez la Russie qui vient en garantie. Sachant que l'Autriche n'a fait cette déclaration de guerre qu'après avoir vérifié si l'Empire allemand les protégerait. De la même manière que Israël est obligé d'être sûr d'avoir l'appui américain avant de pouvoir intervenir à Gaza. Et donc précisément, l'Empire américain a envoyé 2 porte-avions, peut-être d'autres qui sont en chemin d'ailleurs, qui ont quitté San Diego la semaine dernière, le Lincoln et le... C'est quel autre ? Le Ford. Et donc les Américains, ils ont profité de l'occasion pour remettre la main, en fait, le pied partout. Ils redéploient des éléments de bouclier antimissile partout. Ils étaient plus ou moins sur le... Ils glissaient, tout cet espace glissait hors de leur influence depuis une dizaine d'années. Là, ils y revont totalement à fond. Ils se redéploient militairement. Ils sont allés expliquer la vie aux Saoudiens qu'il n'y a pas de problème à normalisation. Une fois que la guerre est finie, on y revient dessus. Enfin, les choses sont assez claires de ce côté-là. Donc Israël est effectivement backé, soutenu par les États-Unis de la même manière que l'Autriche avait obtenu la garantie de l'Empire allemand de les soutenir. Et donc la Russie, elle avait dit attention, si vous envahissez effectivement la Serbie, puisque vous avez déclaré la guerre, moi j'interviens en guerre contre vous. Et donc c'est ce que l'Iran a dit à propos de Gaza. Il a dit si vous envahissez sur Terre, ça sera la guerre, il y aura des trucs. Quoi. Et à partir de là, en fait, il y a 2 acteurs qui ont eu un choix à faire, très important. Donc il y avait la Russie, est-ce qu'elle allait effectivement s'engager pour défendre la Serbie? Et puis il y avait aussi l'Empire allemand à l'époque. C'est-à-dire, est-ce que l'Empire allemand allait décider que ça valait le coup d'aller se battre pour la Serbie? Donc aujourd'hui, il y a 2 acteurs qui ont aussi un choix à faire. Il y a l'Iran, il doit savoir ce qu'il fait. Est-ce qu'ils décident d'entrer effectivement en confrontation ou pas? Mais il y a les États-Unis aussi qui doivent décider ce qu'ils font. Est-ce qu'ils doivent décider d'entrer en confrontation avec l'Iran ou pas, le cas échéant, si l'Iran acquis. Et là...
Voilà, donc ça c'était ce que je disais en le 28 octobre 2023, disais-je. Pourquoi ça me paraît intéressant? Parce qu'il y avait ce parallèle justement qui rappelle que l'Iran est dans une situation... voisine à celle qui était pas seulement l'Allemagne, mais aussi, puisque les deux ont fait leur révolution à la fin de la Grande Guerre, non seulement l'Allemagne, mais aussi l'Empire russe. Et donc, ça nous amène à l'idée, et ça m'a amené à l'idée, je levais ma tête ridicule, ça m'a amené à l'idée que quand il y a eu les échanges de frappes d'Israël, d'abord en 2024 et puis ensuite en juin dernier, ça s'est échelonné. Eh bien, on est entré dans ces phases de guerre et que ça a vraisemblablement affaibli effectivement les passes d'Aran au point de les amener à ce qui est une sorte de moment de 1917, en tout cas si on continue la comparaison avec la Russie, et qui serait l'équivalent du début de la révolution allemande en 1918 si on prend l'Allemagne. Et c'est le dernier extrait que je voulais vous faire écouter, et ça c'était il y a 6 mois, nous étions donc le 24 juin 2025, je me recale correctement parce que vous n'avez pas besoin de me voir en double, et voilà, ça va, j'ai pas trop changé depuis 6 mois. Bon, désolé, je vois qu'il y a des gens qui se plaignent que ça va trop vite, mais je pense que c'est quand même mieux. Là, je vais le mettre en 1x25, j'étais peut-être plus rapide cette fois-ci. On écoute ça.
Ensuite, au-delà, où en est le régime iranien lui-même? Parce que comme je vous l'ai dit, encore une fois, hein, ancien régime finissant, avec une force armée qui existe toujours et qui permet de tenir le régime, mais la question c'est de savoir jusqu'où, hein, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Encore une fois, comme je l'ai répété plein de fois ces derniers jours, il y a 2 ans, il y a eu les manifestations très importantes à l'intérieur du pays, alors qui ne touchaient pas la totalité du pays dans son ensemble, et c'est essentiellement dans les villes surtout qu'il y a eu ces mouvements de jeunesse, de recherche d'émancipation, dont encore une fois apparemment on voit le résultat encore aujourd'hui à Téhéran, puisque la police des mœurs, disons, y fait de façon moins active, ne serait-ce que pour éviter que les gens s'énervent à nouveau. Donc pour maintenir la paix sociale, il y a eu, disons, semble-t-il, une forme de tolérance pratique qui s'est mise en place, qui montre bien que ces manifestations avaient eu un effet important. Et il faut bien se souvenir que ces manifestations, c'était encore avant que le Hezbollah se fasse étriller, que la Syrie tombe, que les Houthis s'en prennent quand même quelques-unes aussi. C'est-à-dire qu'en fait, depuis qu'il y a eu ces débuts de manifestations, en réalité, et c'est ce que je constatais déjà l'autre jour, l'Empire iranien s'est assez largement démembré. Donc il est vraisemblable, enfin il est tout à fait possible, qu'on ait déjà en réalité un appareil militaire intérieur, en particulier disons, paramilitaire, disons, du corps des gardiens de la Révolution, mais c'est ça la force militaire intérieure. L'armée iranienne est une seconde zone moins bien équipée, etc. C'est vraiment les gardiens de la Révolution, l'armée du régime, qui est l'armée efficace du pays, se sent déjà affaiblie. Elle a perdu une partie de ses cadres, elle a perdu une partie de son influence régionale. Et donc, tout ça pour dire qu'on est peut-être déjà entré dans une phase qui est très très loin. Vous savez, comme je compare souvent avec l'Empire allemand, qui est très très loin de 1914 et qui est déjà beaucoup plus proche de 1918, en fait. C'est-à-dire avec déjà une grosse fatigue et le sentiment de la place, de la part des élites, du régime, que le régime est extrêmement fragile et qu'il faut le sauver, il faut trouver un moyen de sauver la paix sociale en urgence. Et la paix politique surtout. Et donc garantir le maintien du régime. Et le seul moyen de le maintenir, c'est d'arrêter les frais au niveau militaire. Alors si possible, sans que ça ait l'air d'une défaite catastrophique, mais... voilà, si jamais les choses s'arrêtent là, il y a quand même un petit côté retrait en bon ordre. Et il faut se souvenir de ça, que si je fais encore une fois le parallèle avec la situation de l'Allemagne en 1918 quand ça s'est effondré, il y a eu le retrait en bon ordre d'une bonne partie des troupes sur le front, ce qui a donné plus tard lieu à la légende du coup de poignard dans le dos. Et ensuite, une bonne partie de ces troupes n'ont pas été désarmées en rentrant à la maison, mais se sont mis à former des corps francs. Et à ce moment-là, il y a eu le basculement de l'Allemagne dans les événements de guerre civile de 1919, hein, notamment avec la révolte spartakiste, la République des Conseils de Bavière, dont je parle régulièrement, etc. Donc on est peut-être en fait déjà dans un stade de maturité comme ça. Alors, il n'y a pas d'agitation encore intérieure très forte en Iran, les choses sont calmées, j'ai dit aussi en quoi les bombardements étaient gênants à ce moment-là, mais si les choses se calment effectivement, laisse derrière un régime affaibli qui va essayer d'expliquer qu'il a gagné, naturellement. De toute façon, ils sont déjà en train de le faire. Il semble-t-il qu'il devait même organiser une parade de victoire à Téhéran à 6h ce soir. Mais ça va laisser l'information sur ce qu'est le régime va tourner. Les gens vont revenir dans les grandes villes. Il est probable que la paix et la nécessité de négocier finissent par nourrir à nouveau une forme de contestation sociale. Et que ce qui aura été malgré tout une humiliation des gardiens de la Révolution laisse des traces dans la durée. Et à ce stade, je pense que c'est ce qui est le plus probable. C'est-à-dire, je pense pas. Encore une fois, je peux me tromper, hein. Mais c'est quasiment impossible à prédire tellement ça dépend beaucoup de quelques choix de personnes finalement ces choses-là. Mais sur la tendance, de toute façon, faut pas oublier historiquement, si vous restez au fond, on va vers une nouvelle révolution en Iran. Très simple, où le régime des Mollahs disparaîtra totalement, le corps des gardiens de la Révolution sera balayé, donc on va aller sur autre chose. Cette autre chose, il peut prendre de multiples formes. Et la forme la plus plausible à ce stade qu'on peut imaginer, c'est le fait qu'avec l'affaiblissement du corps des gardiens de la Révolution, il y a une partie de la contestation, notamment celle qui datait de, qui est également musulmane et conservatrice, mais beaucoup plus démocrate, qui était celle qui avait manifesté en 2008, hein, où les manifestations étaient d'ampleur très très supérieure à ce qu'on a vu. Même il y a 2 ans, cette contestation pourrait réapparaître, et à ce moment-là, il risque d'y avoir dans l'appareil d'État, notamment dans l'appareil politique, et notamment entre les institutions, on en parlait l'autre jour, un bras de fer. Par exemple, vous pourriez avoir le président Pezeshkian qui chercherait à capter du pouvoir au détriment du guide suprême iranien, par exemple, ce genre de choses. Et en s'appuyant sur, ou pour répondre, à la contestation, à une contestation sociale importante. Je pense que ça ne va pas démarrer du jour au lendemain, mais avec un régime affaibli, le temps que les gens rentrent à Téhéran déjà, que la vie reprenne son cours, qu'on voit le tournant que prennent éventuellement les négociations avec, avec les États-Unis, je pense que c'est dans cette direction qu'on va aller. Voilà.
Voilà, donc pour faire cette petite rétrospective de ce que j'avais dit, ça me paraît pas mal, dans la mesure où déjà ça montre un truc, c'est que j'ai pas crié à la révolution chaque fois qu'il s'est passé quelque chose, puisqu'en 2022 je vous avais dit que vraisemblablement il se passerait rien, et qu'on a effectivement bien eu une forme de guerre régionale, à savoir dans quelle mesure elle est terminée. Que l'Iran a été obligé de reculer sur un certain nombre de fronts, en particulier le corps des gardiens de la Révolution, qui est celui occupé de la projection extérieure, a connu des défaites importantes avec la chute du Hezbollah et la mort de Nasrallah en septembre 2024, et avec la chute d'Assad en décembre 2024, et en dernier lieu avec les frappes sur le territoire iranien lui-même, les frappes massives, en juin l'année dernière. Et donc, on suit finalement le schéma tout à fait classique d'évolution du intérieur iranienne avec un régime qui est affaibli et vraisemblablement donc un corps des gardiens de la révolution qui a été suffisamment affaibli et un régime qui a perdu suffisamment en crédibilité pendant ce conflit, pendant toutes ces épreuves, pour que ça y est, on soit à l'étape du régime ruiné et délégitimé. Et vous savez que c'est à ce moment-là, normalement, que d'anciens régimes tombent. Ce n'est pas le cas, d'après moi, du Venezuela de Maduro. Si vous vous souvenez de l'émission, je ne vais pas aller rechercher l'émission sur Maduro, mais ce que je vous avais dit, c'est que au moment où la guerre, enfin au moment où la réélection de Maduro a eu lieu, je vous avais dit, il y avait eu des manifestations monstres. Et ce que je vous avais dit à ce moment-là, c'est on va voir, parce que bon, déjà la santé financière du pays n'était pas géniale, ce qu'il fallait voir, c'était si, parce que la délégitimation, ça joue notamment sur la fidélité des forces de sécurité, notamment de l'armée. Et donc je disais, on va voir si les forces de sécurité suivent Maduro ou rejoignent la population, puisque c'est ça en fait qui fait qu'une révolution commence vraiment. Hein. La révolution française, elle se libère totalement, on va dire, avec la prise de la Bastille. Pourquoi? Notamment parce que les gardes françaises qui étaient envoyées pour réprimer la population ont rejoint la population. C'est ça qui s'est passé. Ils ont pris la Bastille avec elles. Si vous prenez la place Tahrir, c'est pareil, etc. C'est le cas dans beaucoup de révolutions. La fraternisation avec la troupe. Et le truc, c'est que la population ne peut pas fraterniser véritablement avec le corps des gardiens de la Révolution parce que ce sont les troupes idéologiques du régime. C'est la garde prétorienne, en fait. S'il y a des troupes qui peuvent fraterniser avec la population, c'est pas encore le cas. Il semble avoir des indices par endroit, en tout cas des comportements individuels. C'est plutôt du côté de l'armée et de la police, c'est-à-dire ce qui relève plutôt du commandement du pouvoir civil. Voilà. Donc ça, ce sont des choses qui sont assez classiques et qu'on peut attendre de voir. Et donc, pour ce qui est du Venezuela, ça n'avait pas été le cas à l'époque. La troupe avait suivi Maduro. Comme on était que quoi, 2 ans après, le fait d'enlever Maduro, vraisemblablement, ne suffit pas à faire s'effondrer le régime. D'ailleurs, on le voit, visiblement, le régime est toujours en place. Et il faudrait, pour faire tomber le régime, beaucoup plus que ce que les Américains ont voulu mettre sur la table. Il faudrait faire l'équivalent de ce qui avait été fait en Irak à l'époque, puisque avec le régime de Saddam Hussein, on était pareil à quelques années de la fin, parce qu'il serait tombé en 2011 comme les autres régimes arabes. On était en 2003, c'était quelques années trop tôt. Vraisemblablement, si pareil, Saddam Hussein avait été décapité à ce moment-là, le pays n'aurait pas plongé comme ça. Le régime aurait encore retenu, parce qu'il avait encore quelques années devant lui. Il n'était pas mûr, si vous voulez, tout simplement. C'est une question de maturité du régime. Et donc le régime, il se maintient même si vous décapitez. Là, on est à un stade où déjà le régime est prêt à tomber. Là, si vous décapitez, que vous enlevez Ramenei, c'est terminé quoi. La question c'est est-ce qu'il va être foutu dehors tout seul par le peuple ou est-ce qu'il faudra des frappes extérieures? À mon avis, les frappes extérieures à ce stade-là seraient plutôt contre-productives. D'ailleurs, il semble qu'Israël en ait annulé ou reporté parce qu'ils ont eu peur de cet effet-là. Et vraisemblablement, c'est le cas aussi des Américains. En tout cas, qui pensent qu'il y a suffisamment de force dans le mouvement pour que le régime tombe et donc qu'ils n'en font pas plus. Alors, on va le vérifier. Hein. Déjà, ce qu'on voit, c'est que en revanche, le corps des gardiens de la Révolution s'est pas effondré d'un coup. Au contraire, ils sont en train de se livrer à une répression qui est assez sévère, qui est meurtrière, n'ayons pas peur des mots, et dans laquelle les consignes de Pezeshkian, visiblement, qui est le président iranien, ne sont pas suivies, naturellement. Donc la grosse question, c'est savoir qu'est-ce qui va se passer. Je reste sur mon interprétation d'il y a 6 mois, par contre. Et je reste d'autant plus sur mon interprétation d'il y a 6 mois que, à mon avis, il y a un parallèle assez intéressant à faire avec l'Union soviétique. En Union soviétique, si vous vous souvenez, comment est tombée l'Union soviétique ? L'Union soviétique commence à se structurer au niveau du pouvoir. Est-ce qu'on peut peut-être trouver un petit chemin ? Qu'est-ce qui me fait ? Désolé, des fois j'ai perdu l'image sur mon PC. Voilà. On va essayer de faire ça. On va essayer de trouver un schéma pour vous illustrer le truc. Comment dire ? Schéma gouvernement Union soviétique. Voilà, que vous ayez, que ça permet d'être un peu illustré. On est sur Wikipédia, donc on devrait trouver facilement. C'est pour vous montrer que, en fait, l'Union soviétique était fichue de telle manière que vous aviez l'État, voilà. Je vais vous montrer comme ça. Attendez, je l'ai pas fiché encore. Hop là. Je vais le faire en plus petit. Parce que vous n'avez pas besoin de le voir aussi gros, je pense. Voilà. L'important, c'est de voir ça. C'est-à-dire, c'est de voir qu'en fait, il y avait l'État soviétique qui fonctionnait un petit peu comme la plupart des États, tout simplement. Donc, ce que je vais faire, je vais décaler ma caméra, comme ça, vous me verrez. Voilà. Donc, l'État soviétique est un État classique. Je veux dire, si vous prenez que le côté droit du schéma, vous trouvez quelque chose qui ressemble à peu près n'importe quel État, avec deux chambres, une chambre haute, une chambre basse, voilà, et puis des organes qui sont élus au sein d'un système qui est fédéral, avec un conseil des ministres, etc. Donc, tout ceci n'est que du classique, naturellement. Donc, vous diriez, bon, ça ressemble à un État normal. Mais ce qui caractérise un régime comme l'Union soviétique, qui était un ancien régime, on va dire, forme moderne, c'est qu'en réalité, tout ce schéma est totalement vide. C'est-à-dire qu'il est vide de pouvoir. C'est l'apparatus que vous trouvez dans, ou le corps normal que vous trouvez dans n'importe quel État, mais il est doublé par un appareil qui, lui, est celui qui a véritablement le pouvoir. Et qui est véritablement celui qui décide de diriger. Et en fait, c'est le gouvernement parallèle qui gouverne le gouvernement lui-même. C'est comme une espèce de gros parasite, si vous voulez, qui gonfle comme ça et qui est par-dessus le pouvoir civil. Et donc ça, c'était le Parti communiste de l'Union soviétique. Hein, avec quand vous voulez savoir qui était le chef de l'Union soviétique, vous savez que c'était le secrétaire général du Parti soviétique. Hein, c'était Brejnev. Avant ça, c'était Staline. Hein, et c'était pas comment il s'appelait déjà ? Kalinine, le président du présidium, c'était le pouvoir civil, mais c'était pas lui qui dirigeait. Donc c'est comme ça que ça fonctionnait l'Union soviétique. Et alors ça s'est terminé comment ? Eh bien, ça s'est terminé quand Boris Yeltsin, qui était donc le président élu de la République socialiste fédérative de Russie, a décidé de quitter le Parti communiste. Et donc ensuite, en tant que chef du pouvoir civil de la principale république d'Union soviétique, qui était la Russie, a décidé de s'opposer au gouvernement du Parti communiste, et en fait de virer le gouvernement du Parti communiste, c'est-à-dire de couper le cordon avec le parasite, voilà. Et de dire désormais je reprends le pouvoir. Et c'est ça qui a entraîné la chute de l'Union soviétique, ça a été extraordinairement important dans la séquence. Alors pourquoi je vous remontre ça ? Parce que on va faire, attention, vous allez regarder l'opération, on va faire schéma gouvernement République islamique d'Iran. Et on doit avoir des trucs comme ça. On doit avoir un schéma. Voilà. Tac. On va faire comme ça. Est-ce que c'est le mieux ? C'est pas forcément le... Ouais, si, c'est le plus visible. C'est le plus neutre, en tout cas. Voilà. Et alors, si vous regardez ça, vous apercevez que vous êtes... Ah, zut. On va essayer d'aller chercher le schéma unique. Ouais, d'accord. Voilà. Alors. Voilà, voilà. Donc vous comprendrez que vous retrouvez la même logique, en fait, qu'avec le... Où est-ce qu'il est ? Il était là. Vous retrouvez la même logique. C'est-à-dire que vous avez les institutions soumises au processus électoral qui, en fait, sont les institutions classiques, celles que vous retrouvez dans n'importe quel État. Et à côté de ça, vous avez les institutions... Je ne sais pas si on le voit assez gros... Les institutions qui sont non soumises à un processus électoral, qui sont l'équivalent en fait du Parti communiste. Je pense qu'on pourrait voir un truc un peu similaire en France d'ailleurs, mais si vous étiez le Conseil constitutionnel, tout ça, mais bon, bref, c'est pas le sujet ce soir. Mais donc vous voyez tout ça. Et alors, donc, pourquoi je dis ça ? Parce que dans ce schéma-là, vous auriez Pezeshkian, qui est donc le président iranien, qui a été élu il y a pas si longtemps, c'est quoi, c'est il y a un an ou deux qu'il a été élu. Donc il y a une certaine légitimité électorale, en tout cas supérieure à celle des autres membres du corps iranien, notamment de Khamenei. Alors, en temps normal, naturellement, il est soumis à la constitution de la République islamique, et donc soumis au pouvoir, en fait, du guide suprême. Mais ce jeu pourrait changer. C'est-à-dire, il pourrait faire comme Boris Yeltsin, c'est-à-dire s'appuyer sur la contestation populaire pour essayer de dégager, en fait, tout simplement, le règne de la République islamique. Donc, dégager le guide suprême, dégager... les passes d'Aran, donc le corps des gardiens de la révolution, qui sont un peu l'équivalent du KGB, si vous voulez, et de la partie la plus militante de l'armée soviétique. Il pourrait notamment essayer de s'appuyer, par exemple, sur l'armée civile, puisque vous savez que l'armée régulière, qui est un peu le parent pauvre des forces armées de l'Iran, puisque l'essentiel des bons matériels, des bonnes soldes, etc., sont remises à la garde prétorienne, naturellement, qui est celle du corps des gardiens de la Révolution. Et donc il y a des rivalités internes entre l'armée qui est l'héritière de l'armée du Shah, d'une certaine manière, même si naturellement ça a été purgé et modifié lors de la Révolution. Donc je ne dis pas qu'il y a une fidélité au Shah, hein, c'est pas du tout ça, mais en fait c'est une armée traditionnelle, on va dire, pas idéologisée. Et donc probablement plus de nature à éventuellement se détacher du régime que le corps des gardiens de la Révolution, qui lui est consubstantiel au régime. Et donc, à mon avis, il y a des chances qu'on aille vers ça. Surtout si le corps des gardiens de la Révolution poursuit sa répression meurtrière, mais que les manifestations continuent. Je pense qu'il y a un moment où on va probablement avoir... Alors, ça peut être très brutal, ça peut l'être moins. Ça peut être l'armée qui décide tout d'un coup de rejoindre Pezeshkian et tout d'un coup le corps des gardiens de la Révolution qui s'évapore. Mais peut-être pas. Peut-être qu'on peut avoir aussi des épisodes de guerre civile, ça peut sombrer dans la guerre civile, entre l'armée régulière et le corps des gardiens de la Révolution, armée régulière soutenue par la population, et le corps des gardiens de la Révolution qui, lui, chercherait à se maintenir sur un certain nombre de bastions. Et c'est là que peut intervenir éventuellement l'aide étrangère, en particulier russe, pour essayer de maintenir le pouvoir des mollahs. Grosse question de savoir ce que feraient les Chinois, parce que les Chinois, ils ont deux intérêts un peu contradictoires. Un, ils ont un intérêt à ce que ce régime soit maintenu, parce que c'est un régime d'une certaine manière allié, mais moins proche quand même que la Russie. Le principal intérêt des Chinois en Iran, c'est surtout d'obtenir des livraisons de pétrole. Donc s'ils arrivent à voir que succède un pouvoir civil qui continue les livraisons et qui ne s'éloigne pas forcément diplomatiquement de la Chine, ils peuvent avoir intérêt à ça. Voilà. Mais enfin, ce qui est certain, c'est que, pour moi, dans la continuité de ce que j'ai dit dans les premières vidéos, vous voyez, on arrive à ce stade-là aujourd'hui, je reste sur mon analyse d'il y a 6 mois, disant que la contestation, cette fois-ci, je pense, va venir à bout du régime. La question, c'est à quel degré de violence ? Parce que si vous regardez, surtout dans l'ensemble du monde arabo-musulman, on va dire, ce qui s'est passé dans un certain nombre d'autres pays. Il y a des pays dans lesquels ça s'est passé assez rapidement. Vous vous souviendrez de la Tunisie et de l'Égypte, hein, où vous avez les forces régulières qui sont passées du côté des manifestants et le régime s'est effondré. Mais c'était des situations dans lesquelles il n'y avait pas véritablement de forces armées du régime, équivalent au corps des gardiens de la Révolution. Il n'y avait pas ça. Donc c'est quand même un truc qui rend plus vraisemblable les problèmes en Iran, le fait que les choses soient plus chaotiques et moins dans la transition d'un coup avec tout truc qui s'évapore. Et donc je crains que la situation se rapproche plus, surtout si les Russes en plus trouvent des moyens d'aider, de fournir du matériel, de soutenir les gardiens de la Révolution, ça risque de ressembler plus à ce qu'on a vu en Syrie, malheureusement. Et ce qu'on a vu en Syrie, vous en souvenez, alors il n'y avait qu'une armée régulière syrienne, il n'y avait pas de corps, de corps idéologisé au service à distinct de l'armée régulière, mais il y avait quelque chose d'un peu similaire, qui est que tout le corps des officiers de l'armée, dégradés, étaient membres de la minorité essentiellement alaouite. alors que la majorité des troupes étaient sunnites. Ce qui vous explique qu'au moment où il y a eu la révolution, l'armée syrienne s'est évaporée aux trois quarts. Hein, il y avait 250 000 hommes, tout d'un coup il en restait plus que 50 000 qui étaient les alaouites dedans, et tous les autres étaient partis, parce qu'ils ont rejoint directement les rebelles. Et donc dans ce cas-là, vous avez les forces armées qui se sont scindées en deux, si vous voulez. La minorité, mais qui en même temps était les gradés, enfin dedans il y avait les gradés, ils n'étaient pas tous gradés naturellement, c'est là-dedans que vous aviez les gradés, les cadres, donc qui étaient plus organisés, qui avaient l'accès aux armes, etc., sont restés du côté du pouvoir, et la troupe, en revanche, en majorité, est passée du côté des manifestants. Donc, on est dans une configuration, c'était pas idéologique, mais où l'idéologie a fait que, ou en tout cas l'appartenance idéologique, l'appartenance culturelle aussi, à l'intérieur de l'armée, d'une partie de l'armée, est restée fidèle au pouvoir, alors que l'autre est partie. Et je pense qu'on a quelque chose comme ça, on est plus proche de cette configuration, hein, c'est clairement en Iran. Donc forcément, les risques que ça bascule dans la guerre civile sont beaucoup plus importants que dans les autres cas, en fait, hein, que dans le cas égyptien ou dans le cas tunisien. On est beaucoup plus près de ce qui s'est passé en Syrie. Donc je pense que ce danger est effectivement réel. Donc on peut se réjouir de la population, on peut se réjouir du fait que la Perse éternelle réapparaisse, que les Perses veuillent se défaire du régime des Mollahs, mais je pense que ça ne va pas aller tout seul. Ça ne va pas aller tout seul parce qu'il y a ce problème interne des forces armées, et il y a l'autre problème en plus qui est le fait que les Russes ont un intérêt direct à intervenir parce que les Russes sont en train de se casser la figure sur tous les fronts. Ils continuent de grignoter en Ukraine, mais ils ont eu l'air totalement ridicules avec la capture de Maduro. Ils ont eu l'air encore plus ridicules avec la saisie de leur pétrolier. Il y en a encore un autre qui a été saisi aujourd'hui. Visiblement, les Américains ont l'intention de tous les saisir. Ils les ramènent avec le pétrole qu'il y a dedans. Il y en a pour des centaines de millions de dollars. Enfin, c'est véritablement une claque. Donald pas content en ce moment. Donc là aussi, on retombe sur des choses que je vous avais dit. Je vous avais dit que ça finirait comme ça avec Donald Trump. Et donc voilà où on en est. Et comme je vous dis, à ce stade, je pense que le plus vraisemblable, c'est que on va avoir une plongée dans la violence, que c'est la plongée dans la violence elle-même, à partir du moment où la résistance populaire ne s'arrêtera pas. Si la résistance populaire était étouffée, à ce moment-là, ça serait partie remise. Mais j'ai quand même l'impression que là, cette fois-ci, on est parti et que ça sera compliqué. Donc, ce que je vois de plus probable, mais ça serait partie remise, mais à la fin, vous aurez une révolution nationale. Hein. Parce que, si vous voulez, c'est toujours pareil. Historionomiquement, l'objectif, c'est le même. Hein. Donc, vous avez historionomie, c'est vous avez carte, c'est-à-dire que vous savez comment sont fichus les régimes, et vous avez votre boussole, vous savez dans quel sens ça va. Après, c'est plus difficile de savoir exactement quel chemin vous allez emprunter, ça c'est sûr. Mais à ce stade, je pense que le chemin le plus probable qui sera emprunté, c'est donc qu'on est déjà dans la séquence de révolte populaire qui va faire tomber le régime. Donc ça veut dire qu'on n'en sortira pas avant que le régime soit tombé, c'est ça que je veux dire. En revanche, ça ne veut pas dire que cette révolte populaire va faire tomber facilement le régime. Donc je pense que le plus probable, c'est donc qu'il va y avoir cette répression brutale de la part du corps des gardiens de la Révolution, que cette répression va durer, mais que les manifestations ne vont pas lâcher, que tout ceci va finir par faire basculer l'armée régulière du côté des manifestants, parce qu'ils en auront trop marre de cette répression, justement. Vraisemblablement que Pezeshkian suivra aussi, parce qu'il a l'air d'être sur cette ligne d'essayer de faire du social, parce qu'il sait que la situation de la population est très dure. En disant que c'était aussi des problèmes collectifs de la manière dont ils généraient l'énergie, etc. Et donc à ce moment-là, je pense que ça sera plutôt vers une version difficile et qu'on aura des épisodes de guerre civile. Cela dit, je rappelle qu'il y en a eu aussi pendant la dernière révolution russe, hein, c'est-à-dire celle des années 90. Mais ce n'était pas au moment où le régime est tombé, c'était deux ans plus tard, vous avez Boris Eltsine qui a fait tirer sur le Parlement. Mais il y a quand même eu des confrontations comme ça. Il y a eu aussi la tentative de coup d'État de, comment il s'appelait, Yevgeny Gennadiev, je crois, qui avait essayé de renverser Gorbatchev pour maintenir l'Union soviétique, et il est tombé, donc c'est ça aussi qui a ouvert la porte à Boris Eltsine. Donc on est dans ce calcul-là et on est dans un Iran qui va peut-être pas s'effondrer tout de suite, en tout cas vraisemblablement qui assez rapidement va être réduit à l'impuissance à l'extérieur, parce que ça va être très compliqué s'il entre en guerre civile de continuer à soutenir les Houthis par exemple, sachant que au Yémen, vous avez les Saoudiens qui sont en train de refaire l'unité, parce que vous avez trois grands camps dans le Yémen, il y a le gouvernement internationalement reconnu, vous avez les Houthis qui tiennent deux tiers du pays, deux tiers de la population, pas de la surface mais de la population, et vous avez une troisième faction qui était la faction indépendantiste du Sud, qui était soutenue par les Émirats Arabes Unis. Les Émirats Arabes Unis ont été poussés par l'Arabie Saoudite à se retirer. Et donc le sud, la faction sud Yémen est en train de tomber, donc à ce moment-là la partie qui n'est pas au Houthi va vraisemblablement être prochainement unifiée sous le commandement du gouvernement officiel, et à ce moment-là vraisemblablement que l'Arabie Saoudite profitera de l'effondrement ou en tout cas des difficultés de l'Iran pour définitivement régler le sort des Houthis, probablement avec l'aide d'Israël d'ailleurs qui aura tout intérêt à ça, et aussi des Américains dans la région hein, pour, c'est un moyen aussi de la reprendre en main. Donc ça va avoir des conséquences mais ça ne signifie pas que voilà, on va avoir un changement de régime du jour au lendemain comme ça et que la question en Iran sera réglée, ça je ne le pense pas, je pense que ça va durer un petit moment, et tiens d'ailleurs j'aurais pu afficher les petites cartes pendant que je vous parle de ça, d'ailleurs on va encore en parler, donc je vais on va partir sur quoi, sur Google Maps, ouais parce que Google Earth c'est chiant, à chaque fois j'ai le globe terrestre qui tourne dans le mauvais sens, donc ouais, vite comment ça fonctionne, ah oui c'est là, ah oui parce que grâce à Thierry Breton on peut plus ah non, c'est pas bon ça. Grâce à Thierry Breton, on peut plus ouvrir les cartes de Google Maps. Oh là, c'est pénible. Ouais, bon, attendez, je vais le faire de mon côté pendant que je vous parle. Jeux Olympiques de Paris, je crois qu'on n'a plus le droit. Ils ont fait en sorte que Google Maps ne s'affiche plus dans. Il faut se souvenir ça, hein, que c'est à cause des élites européennes et de Thierry Breton qu'on peut plus aller sur le. Voilà. Et des élites françaises aussi d'ailleurs, hein, parce que elles ne sont pas en reste. Donc voilà. Voilà. Où on en est donc avec l'Iran. Donc, que dire de plus sur l'Iran ? Pas grand-chose. Il y a des manifs partout. Hein. Il y en a même au nord de Téhéran. Donc, l'idée est éventuellement qu'il puisse y avoir une espèce de réduit, par exemple, dans le nord. N'est pas. Ah oui, parce qu'il y a ça aussi que je voulais vous parler. Il y a des petit risque de séparatisme. Parce que bon, le territoire iranien, ça fait 200 ans qu'il est à peu près stable. Hein. Donc en toute logique historionomique, on devrait pouvoir penser qu'il y a eu une forme d'homogénéisation suffisante pour que le truc n'explose pas. Et de fait, c'est pas fédéral. Il y a encore néanmoins des problèmes de séparatisme locaux ou d'ethnie qui ne sont pas, puisque vous avez qu'à peu près la moitié des Iraniens qui sont des Perses, hein. Vous avez beaucoup d'Azéris, là dans le nord, ici, je ne sais pas si vous voyez ma souris, dans le nord-est, donc au sud de l'Azerbaïdjan, là vous avez masse d'Azéris, qui ne sont pas forcément majoritairement séparatistes, mais le truc c'est que les gens ne sont pas forcément séparatistes au début d'une révolution nationale, mais il suffit que le pays plonge en guerre civile pour que les gens aient envie de se détacher. Des fois ça nourrit les séparatismes. Bon. Donc a priori il n'y a pas un très gros séparatisme, mais ça peut arriver. Donc là vous avez des Azéris. Vous avez ensuite dans toute cette région-là, vous avez le Kurdistan iranien, qui a été très rapidement très en pointe dans les manifestations. Vous avez là, dans l'embouchure de la Mésopotamie, vous avez le Khouzestan. Le Khouzestan, vous avez une minorité arabe qui peuple cet endroit-là. Et vous avez d'ailleurs c'est les Arabes Awazis. Et vous avez un séparatisme qui existe, qui n'est pas majoritaire, mais qui est marginal et qui existe toujours là. C'est cette région, vous savez, que Saddam Hussein avait voulu conquérir lors de la guerre de 1980. Le but, c'était de conquérir le Khouzestan. Et vous aviez pas mal des populations arabes qui avaient accueilli favorablement d'ailleurs l'invasion irakienne parce que unité ethnique. Et pourquoi je dis ça ? Parce qu'il faut se souvenir, à côté de ça, que l'Irak lui-même est en révolution nationale depuis 2011. Je rappelle que tout le problème avec l'État islamique en Iran et en Syrie, c'est l'équivalent de la phase révolutionnaire... comment dire, la plus violente, quoi. Et donc le risque, le gros risque, c'est que désormais, l'Irak est donc en fin de révolution nationale, je vous ai déjà reparlé, j'en reparle pas ce soir, mais j'avais fait des émissions là-dessus, je vous avais, notamment dans l'émission qui s'intitulait « L'Iran en mode berserk » que j'avais fait début 2024, c'était en janvier je crois. J'en ai pas fait d'extrait ce soir parce qu'il y avait rien de pertinent sur l'Iran en particulier, sur le régime. C'était dans la suite de la guerre. Donc à la fin de cette émission, surtout, je rappelais que l'Irak, en 2019, et que ça a été interrompu en 2020, a connu une poussée nationaliste anti-iranienne. C'est-à-dire que vous aviez beaucoup, y compris dans des régions chiites, d'Irakiens qui manifestaient en mode Iran go home, quoi. Et vraisemblablement que le fait de buter Soleimani de la part de Trump le 3 janvier 2020, avant que tout ça soit interrompu par la pandémie, avait pour but de soutenir ce mouvement nationaliste irakien contre l'Iran, donc pour embêter les Iraniens. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à ce stade, en toute logique, il doit aussi y avoir des pulsions d'impérialisme revanchard en Irak. Et donc tentative d'irrédentisme, en fait, hein, puisque c'est ce qui est en général lié à l'impérialisme revanchard. Et donc il y a un risque non nul que l'Irak, si jamais l'Iran s'effondrait dans la guerre civile, que l'Irak veuille essayer de récupérer le Khouzestan, par exemple. Et peut-être aussi d'ailleurs le Kurdistan iranien, puisque les Irakiens ont aussi des Kurdes, alors peut-être que les Kurdes irakiens voudraient profiter, via l'Irak, de récupérer la partie iranienne du Kurdistan. Donc vous voyez, il y a un danger, là, même du côté de il y a un danger de guerre régionale entre des pays qui jusqu'ici étaient alliés. Hein. Voilà, ça fait partie de l'effondrement de l'empire iranien. Il y a d'autres dangers aussi. Il y a un petit danger probablement à la frontière de l'Afghanistan. Hein. Vous savez que, ben justement, en janvier 2024, l'Iran avait tiré en Afghanistan. Et l'Afghanistan, ils sont un peu chauds patates à la fois du côté du Pakistan et de l'Iran, donc ça peut. Et dans le sud-est, par ici là, vous avez également des balouchtes. Hein, c'est les mêmes que ceux qui sont, d'ailleurs c'est en limite, que ceux qui sont aux prises et d'ailleurs qui ont commis des attentats récemment au Pakistan. Ce sont les mêmes et il y en a aussi en Iran. Alors, ils sont moins actifs, mais voilà, il y a le risque que. Le risque que cela arrive. Tout ça pour dire que ça va être un beau bazar si le régime tombe. Et de toute façon, ça va être un beau bazar. Et si c'est avant que le régime tombe, ça poussera encore le régime un petit peu plus à tomber. Voilà. Et donc, dans ce contexte-là, c'est le risque, c'est que le bas-ventre mou du bloc eurasiatique, hein, qui est composé principalement de la Russie, de la Chine et de l'Iran, eh ben ce bloc s'effondrera. Et alors, ça facilitera également, il y a un pays qui a tout intérêt à ça, l'influence de la Turquie. Alors, tout intérêt, ça dépend. La Turquie s'est un peu rapprochée de l'Iran ces temps-ci, sur le dos des Israéliens, en voulant dire. Parce qu'en fait, pour la Turquie, c'est plus intéressant que le régime iranien se maintiennent, parce que la Turquie peut avoir peur d'un Iran dont le régime tomberait et qui, comme à l'époque du Shah, soit allié d'Israël. Parce que c'est tout ce que veut pas la Turquie. Parce que la Turquie, elle a réussi à mettre la main sur la Syrie, elle est en train d'essayer de mettre la main sur l'Irak aussi, elle en est le premier partenaire économique, donc l'influence économique de la Turquie est en train de retrouver les frontières ottomanes, un petit peu, hein, dans ce sens-là, en direction de la Syrie et de l'Irak. Donc un Iran qui laisse faire en Irak est beaucoup plus intéressant qu'un Iran qui tomberait et qui deviendrait partenaire d'Israël, pour la Turquie. Bon, à côté de ça, malgré tout, un affaiblissement de l'Iran de toute façon, ça ouvre encore plus l'espace en direction de l'Asie centrale pour la Turquie. Et le fameux empire Pantur, dont je vous dis qu'à mon avis, il sortira de la guerre. Je vous ai dit les intérêts chinois, naturellement il y a les intérêts russes, parce que les intérêts russes ils ont des intérêts industriels dans le cadre de la guerre avec l'Iran. Il y a toute la mémoire, il ne faut pas oublier, hein, le grand jeu contre les Britanniques en Iran pendant tout le 19e siècle de la Russie, c'est toujours une réalité, hein, parce que c'est l'impression pour la Russie qu'on peut pointer une épée sur son ventre dans cette direction-là, donc ça les inquiète. Donc forcément l'Iran c'est problématique. Et alors pour une Russie qui a déjà perdu le Venezuela. Parce qu'en fait, semble-t-il, la vice-présidente du Venezuela doit aller à Mar-a-Lago, je crois, dans la semaine qui vient. Il semble que d'ores et déjà, le Venezuela ait accepté de donner un sixième de sa, entre un dixième et un sixième de sa production de pétrole annuelle aux États-Unis, pour que les États-Unis la gèrent, soit entre 30 et 50 millions de barils. L'idée étant que, en fait, désormais, c'est Trump qui tiendra les cordons de la bourse pour tenir le régime. De toute façon, donc le Venezuela est perdu pour la Russie. L'Atlantique est en train d'être repris en main par les Américains qui donc saisissent les pétroliers russes. Vraisemblablement, d'après si on écoute l'Instagram, bon, ça fait plusieurs fois qu'il en parle, mais je pense que cette fois-ci, Trump est bien ambiancé. Il risque d'y avoir des sanctions monstrueuses contre le pétrole russe et contre l'économie russe en général, encore au-delà de ce qui était et de la part des États-Unis. L'Inde n'achète, semble-t-il, plus de pétrole russe après avoir résisté un petit peu. En perdant le Venezuela et l'Iran, la Russie perdra des relais importants qui lui permettaient précisément de vendre son pétrole au marché noir, donc en contournant les sanctions. Donc tout ceci, ça sèche fortement pour les Russes. Tout ceci dans un contexte où, rappelons-le, d'après la CIA, la Chine veut agir autour de Taïwan en 2026, sachant qu'on voit depuis un an déjà ou deux se multiplier et d'être de plus en plus fréquent les menaces autour de Taïwan pour essayer de la faire plier. Et sachant que aussi la Chine a déjà dit, et on le sait, on le savait avant, mais en plus elle l'a dit, qu'il était hors de question pour elle que la Russie perde en Ukraine. Et en fait que la Russie s'effondre, parce que si la Russie s'effondre, ça veut dire que la Chine est toute seule. Et la Chine est toute seule, elle a perdu. Elle le sait, tous ses rêves mondiaux sont terminés. Donc la Chine a besoin que la Russie soit debout. Et que la Russie soit en forme. Donc, je pense que ce vers quoi on va aller, du coup, c'est que je reste sur mon pronostic, je pense toujours que la Russie a l'intention d'attaquer. Et qu'elle a d'autant plus de raisons de le faire que le sol est en train de se dérober sous ses pieds avec tous ces coups qu'elle est en train de prendre. Et que la Chine, de toute façon, va passer en mode full soutien parce qu'elle n'a pas le choix, c'est soit ça, soit perdre à nouveau toutes ses ambitions à elle. Et donc je pense que ça va dicter la morphologie d'une bonne partie de l'année 2026. Et qu'en gros, il va se passer énormément de choses cette année. Encore une fois, l'année a commencé très très fort. C'est visiblement pas sur le point de ralentir immédiatement. Donc je pense qu'il faut continuer à accrocher ses ceintures. Et en tout cas, pour terminer, je tiens à répéter que, ben, mine de rien, les modèles historionomiques ont permis de voir quand même pas mal de choses. Ils ont permis justement de voir en Iran que, ben, il y a 4 ans, c'était trop tôt que les manifestations ne feraient pas tomber le pays. Aujourd'hui, je vous dis le contraire parce qu'on est bon pour moi sur la checklist. À voir si ça se confirme, je pense que je vais avoir raison. Je vous avais dit aussi que Trump irait au Venezuela, ça me paraissait clair, que Trump ne livrerait pas l'Ukraine à Poutine, etc. Et je continue de penser que l'année va être également très agitée pour l'Europe et pour la France et pour le régime. On m'a demandé si je pensais encore qu'il n'y aurait pas d'élection en 2027. Oui. Alors, encore une fois, je commencerai à en douter éventuellement si Emmanuel Macron est toujours là cet été. Mais vu qu'on est sur le chapeau de roue, si en plus il y a une attaque de la Russie, à mon avis, il va y avoir des effets accélérateurs extrêmement importants dans la région. Voilà, voilà, voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Et maintenant, je vais aller voir si nous avons eu des questions. Ah, est-ce que j'ai récupéré mon retour ? Parce que pendant une partie de la soirée, j'ai pas eu le retour sur ce truc. Je rappelle que la question qui est la plus likée dans les commentaires ou remarques est celle que je lis automatiquement dans l'émission suivante. Donc, n'hésitez pas à revenir après l'émission pour faire un petit coucou et faire un petit commentaire, justement, ou éventuellement poser une question. Ça nourrit bien le référencement. Alors, quelqu'un s'est réjoui du retour du générique de Red Alert. Bah oui, écoutez. écoutez, j'essaie de d'alterner un petit peu parce que je sais que vous aimez bien ça. Moi, j'aime bien l'autre aussi, mais bon, ça pas voilà. Question choix. Est-ce qu'on peut faire un parallèle avec l'Union européenne? Ah, pour parler du système politique Iran, URSS, UE. Ça me paraît un petit peu différent parce qu'on a, je pense qu'on n'a pas tellement un système qui est doublé d'autres choses qu'un système qui en soi est très peu démocratique, déjà. C'est les deux modèles en fait qu'on peut avoir. Soit un truc qui n'est pas démocratique carrément, c'est-à-dire que les institutions sont telles qu'il n'y a pas trop de pouvoir. D'une certaine manière, si, et d'une certaine manière, parce qu'au fond, le résultat de ça, le résultat du fait qu'il n'y ait pas de. C'est qu'à la fin, c'est un exécutif qui domine. Et que dans un régime, ce qui caractérise la démocratie, c'est que c'est le législatif qui domine en fait. Et c'est tout simplement ça, c'est la représentation nationale. La question, c'est de savoir si c'est le Parlement ou si c'est l'exécutif qui est souverain. Tout simplement. Donc de ce point de vue-là, on peut faire un parallèle avec l'Union européenne puisque tout le pouvoir est à la Commission. Mais c'est pas vraiment doubler un truc, sauf si on considérait, et après tout pourquoi pas, qu'il y a une espèce de superstructure et que la coalition des partis du centre, c'est l'équivalent un petit peu d'un parti unique et que ça fonctionne pareil. Il y a peut-être un truc à étudier dans ce sens-là, morphologiquement. Stéphane Hugo, merci pour le don. La 5ème République en tant qu'ancien régime moderne n'est-elle pas comparable à l'AR iranien? Conseil constitutionnel tout puissant, les valeurs de la République, la laïcité invoquée à tout va, etc. Ben, d'une certaine manière, oui. Parce que j'ai parlé du clergé, hein, c'est un peu nos mots-là à nous, hein, le service public, qui sont financés par l'État, qui vous disent ce que vous devez penser. Vous associez ça à l'éducation nationale, c'est eux aussi qui ont le contrôle de la formation de la jeunesse, pour l'essentiel. Donc vous avez tout l'appareil idéologique qui tient le pays. Et en même temps, vous avez effectivement une autorité non élue qui surplombe l'ensemble de l'édifice élu, qui est le Conseil constitutionnel, qui est un peu l'équivalent du Conseil des gardiens de la Constitution. Donc c'est salé, mais tout à fait. Mais c'est effectivement une sorte d'AR moderne aussi. C'est un peu moins net, mais là aussi c'est plus diffus. C'est un peu plus net, je pense, malgré tout, que l'Union européenne, parce que justement on a ces grosses structures et tactiques, ces grosses machines, qui sont le service public, qui est, même si à l'échelle européenne on peut considérer que vous avez Arte, hein, mais le service public et l'éducation nationale surtout, qui est plus analogue encore structurellement à ce que sont les mots-là, effectivement. Alors je vois que Hiroma nous donne une alerte info de les manifestations anti-régime ont pratiquement pris le contrôle de Mashhad, la deuxième plus grande ville d'Iran. Mais de toute façon, je ne suis pas surpris, encore une fois, je pense que ça va aller de plus en plus fort et que le régime va tomber. Et encore une fois, la question, c'est dans quelle violence il tombe. Les forces de sécurité du régime sont repliées dans quelques bâtiments du gouvernement. Je pense que la question, c'est aussi s'il finit par y avoir des défections au sein du corps des gardiens de la Révolution. Peut-être que les plus vaillants, d'une certaine manière, ce que j'avais dit la semaine dernière, je crois, que les plus vaillants du corps des gardiens de la Révolution ont été tués lors des opérations... en Irak, en Iran, au Liban, en Syrie, et voire au Yémen, et que ceux qui restent à l'intérieur de l'Iran même, ce sont plus les pantouflards, les affairistes, pas ceux qui étaient les plus combatifs ou les plus capables. Donc auquel cas, peut-être qu'ils seront aussi évaporés, simplement culbutés par l'armée aussi, ça c'est à voir. De toute façon, là on est sur tout un spectre de choses qui peuvent se passer. Faut-il faire des réserves de nourriture pour 2026? Je pense qu'il faut toujours faire des réserves de nourriture. Moi j'en ai toujours. Je pense que j'ai toujours de quoi bouffer 15 jours, nourrir ma famille pendant 15 jours sans problème. Ne serait-ce que si jamais vous cassez une jambe et que vous ne pouvez pas aller faire de course, c'est toujours pratique. Donc c'est une précaution qui me semble minimale. Voilà. Et il y a un autre point que je n'ai pas ressouligné depuis un moment, je pense, mais la chute du régime iranien, en tout état de cause, aura un effet sans doute extrêmement important sur l'islam politique. Hein. Très important, c'est l'équivalent de la chute de l'Union soviétique pour le communisme. Je rappelle que la République islamique d'Iran est un certain modèle même dans le monde sunnite, parce que la réalité, c'est qu'elle a été fondée selon les principes d'action des frères musulmans. Je sais que les frères musulmans, c'est sunnite, mais ça a été importé, la pensée de Saïd Qutb, qui était l'idéologue, le théoricien en chef, en fait, hein, des frères musulmans, a été importé en Iran et dans le schisme par avec l'organisation des fidèles de l'islam de Sefavi, qui était le maître en fait ou le prédécesseur de Roménie. Donc c'est véritablement ça. C'est un petit peu si vous voulez, Roménie, c'est un peu le Lénine et Sefavi le Marx, si vous voulez, ou l'Engels du truc. Donc c'est comme ça que ça a fonctionné. Donc forcément, ça enverra un message sur la non-viabilité de ce genre de régime, en fait. Pour ceux qui espéraient faire la même chose que ces chiens de chiites, mais dans l'islam sunnite, s'ils voient le truc se casser la figure, ça va sans doute dessiller un certain nombre de gens. Et donc ça serait cohérent avec l'évolution de l'islam et la sécularisation du monde musulman, dont je parle régulièrement aussi à long terme. Question de Geoffroy. Est-ce qu'une annexion du Canada par les USA est possible? Je pense qu'une annexion du Canada par les USA est certaine. La question, c'est à quel horizon? Si on a une guerre très chaude, c'est-à-dire qu'elle dure vraiment, que la Russie s'effondre pas rapidement, par exemple, après avoir agressé l'OTAN, et que ça dure un moment, qu'il y a une vraie menace, je pense que l'annexion du Canada pourra se faire de manière rampante pendant le conflit, puisque le Canada, d'une certaine manière, avait déjà une intégration militaire très forte pendant la Seconde Guerre mondiale avec les États-Unis. Donc on aurait encore une intégration supérieure aujourd'hui à travers le NORAD déjà qui gère tout ça. Et donc la guerre, si elle dure et si elle est très importante, pourrait être l'occasion effectivement de ce déploiement américain et d'accélérer considérablement dans ce sens-là. En plus, la pétition pour faire un référendum sur la sécession de l'Alberta au Canada a été jugée acceptable, donc vraisemblablement ça va avoir lieu. Le référendum va avoir lieu et donc il y a une chance assez importante que l'Alberta fasse sécession. Et si l'Alberta fait sécession, vu que c'est l'État qui rapporte le plus de finances au gouvernement canadien, bah à ce moment-là, c'est pratiquement game over, quoi. Donc vraisemblablement, on va vers quelque chose comme ça. Je vais aller faire un petit tour sur le Tipeee, mais avant de dire ça, je rappelle que on est en train de rationaliser la façon dont fonctionne la chaîne pour éviter d'avoir à faire des doublons pour l'accès des souscripteurs au contenu supplémentaire, surtout qu'il va y avoir encore plus de contenu supplémentaire maintenant, notamment à travers les super lives privés. Encore une fois, vous en aurez un gratuit donc dans la semaine. Je suis désolé, ça a pris du retard, mais ça sera dans la semaine. Un ou peut-être deux, ou peut-être un et demi. Enfin, on va voir ce qu'on vous met. Et donc désormais, il n'y aura plus que trois paliers directs. Ça sera accès au catalogue de vidéos, premier palier. Deuxième palier, catalogue de vidéos plus les bulletins. Troisième palier, catalogue de vidéos plus les bulletins plus plus tous les lives privés. Donc la totalité du tout. Donc à la fin, en plus, ça vous fera genre... je dis jusqu'ici, c'était 4-5 heures. Je pense qu'on sera sur 6-7 heures de contenu supplémentaire par mois pour les souscripteurs, en fonction de l'offre qu'ils auront pris. Et donc tout ça sera sur YouTube. Donc si jamais vous êtes souscripteur par Tipeee, faites plutôt la transition sur YouTube, parce qu'à partir de fin janvier, il n'y aura plus les accès via Tipeee. Ça sera que par YouTube. Bien sûr, vous pouvez toujours faire des dons sur Tipeee en revanche, puisque c'est moins taxé. Que ce soit donc les petits dons ou les gros dons, c'est-à-dire les dons qui ne sont pas corrélés à une demande de contrepartie, ben faites-le toujours par Tipeee. Par contre, si vous voulez les contreparties, venez désormais sur YouTube, c'est mieux. Puis vous pouvez faire les deux si ça vous fait plaisir. À nous, ça nous aidera. On est reparti dans les promotions. Vous avez vu que là, on flirte avec les 60 000 abonnés. On va continuer dans cette veine-là, mais naturellement, il faut le financer, et c'est vous qui le financez, hein, tout simplement. C'est comme ça que ça se... Ah, désolé, j'ai un... Voilà, il faut que je coupe l'audio du bureau. J'ai un onglet YouTube qui s'est ouvert. Marc, c'était funky. Voilà, donc je disais, j'allais regarder sur Tipeee, mais d'abord je vois The Chatanist, merci pour le don. En géopolitique, il n'y a pas de neutralité, soit vous êtes avec les USA, soit vous êtes dans les bras de la Russie-Chine, les souverainistes et LFI. Oui, c'est un peu le choix qu'ils font, effectivement, dans cette branche-là. Alors, qu'est-ce que nous avons Je sais pas si c'était la semaine dernière qu'on les a fait. Si j'avais dit la semaine dernière, si Pierre-Antoine Marjolin, je l'avais dit la semaine dernière. Nous avons reçu un gros type de François qu'on remercie bien vivement. Ça nous aide énormément pour ce qu'on est en train de mettre en place. Également un de Guillaume, dont je ne suis pas sûr de comprendre le message. Je ne sais pas si c'est une blague ou je ne sais pas si c'est quelque chose de vrai mais triste. Du coup, je n'ose pas faire un faux pas. Alors, je ne le lis pas. Tu m'expliqueras en MP. Je pense que c'est. Ah, si, on a aussi un. Docteur Sherlock qui nous fait un petit tip. On le remercie. Bonsoir, c'était la rentrée. J'ai rien suivi. Même pas allumé la TV. Est-ce qu'il y a quelque chose? Oui, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. J'espère avoir résumé pas mal ce soir. Je pense que ce que j'ai dit ce soir est le dernier bulletin. C'est facile à suivre, mais bon, je sais très bien que tu étais au courant. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Donc, on va enchaîner, on va basculer avec nos chers souscripteurs dans le live privé des souscripteurs. Je vous salue bien bas. Donc, vous verrez avec les annonces, les notifications de la chaîne. Donc, mettez la cloche si c'est pas fait. Abonnez-vous si vous avez découvert la chaîne avec cette vidéo. Je sais même pas combien de personnes en avaient en public là ce soir. J'ai pas pris le temps de le regarder. Ouais, mettez les notifications comme ça, vous serez informé de l'arrivée de la vidéo de live privé des abonnés qui sera mise en ligne histoire que vous sachiez ce que c'est et puis que vous preniez votre décision en connaissance de cause de savoir si vous souhaitez bénéficier de cette contrepartie ou pas. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux formats et ne vous laissez pas faire.